Eh bien, rebonsoir les amis, nous étions là depuis quasiment 17 heures et nous arrivions du congrès, du 83e congrès de l'USH, l'Union sociale pour l'habitat. On est ici à Dijon pour inaugurer une tour totémique, iconique. Et d'ailleurs, je précise que le G20, sous présidence indienne, vient de décerner deux prix, pas moins de deux prix, à Elitis et Katela, parmi les 100 bâtiments les plus iconiques au monde. Justement, je reçois le maire de Dijon, un maire emblématique, un maire comme on les aime, un élu local ancré dans son territoire. C'est François Rebsamen. Bonsoir François.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Ça doit faire du bien de se dire que dans la ville de Dijon, que vous dirigez, vous avez l'un des bâtiments les plus iconiques au monde.
Ah, c'est une grande fierté. Ça l'a déjà été il y a maintenant 14 ans très exactement, puisqu'il y a eu une première tour qui d'ailleurs, je crois, a été aussi honorée d'une distinction. Et donc, oui, mais depuis le début, je crois dans ce groupe Elitis. Thierry Bièvre, son président directeur général, à cette conviction, et il a su mener ses projets avec, bien avant tout le monde, la volonté de réduire les gaz à effet de serre et de trouver des bâtiments à énergie positive. Et ça, il y a 20 ans. Et donc, aujourd'hui, on dit ce qu'on veut, mais il y a 20 ans, ce n'était pas gagné d'avance.
Hein. C'est clair. François Rebsamen, vous avez dit des choses très importantes et qui sont fondamentales. Et je vais les reformuler avec mes mots. Est-ce qu'on peut concilier l'évolution de la démographie, les usages, le besoin de logement digne, décent, et les contraintes qui nous sont imposées par une planète qui est un peu malade, pour le dire, avec une écologie qui n'est pas une écologie forcément punitive, mais nécessaire à l'équilibre. Est-ce qu'on peut, très franchement, de votre point de vue presque philosophique d'ailleurs, dire on peut construire plus haut, sans sacrifier l'espace, un empattement de 275 m², ce qui est absolument exceptionnel, 59 logements, et encore mieux, puisque actuellement, a démarré à Brest, un chantier encore plus ambitieux, qui va mêler du solaire et de l'éolien. Est-ce qu'on peut, quand on a un élu local où on vous donne que des injonctions parfois contradictoires, où vos dotations fondent comme neige au soleil, des contraintes d'intégrer des habitants, parce que vous avez envie d'intégrer des habitants, des entreprises, cette question, je vous la pose à vous l'élu local, est-ce qu'on peut rendre cohérent, conjuguer ces deux soucis, le souci de la planète et le souci des hommes?
Bien sûr, bien sûr. C'est justement quand on ne cherche pas ce chemin de crête qu'on va tomber du mauvais côté. Soit dans ce que j'appelle l'écologie des mots ou l'écologie punitive, ça revient un peu au même d'ailleurs, c'est-à-dire sans se préoccuper des décisions qui sont prises. Et, mais pour ça, il faut porter en soi quand même une idée de décroissante, de se dire que tout va mal, que la terre est moche, qu'on ne peut plus rien faire, etc. Il y a quand même l'optimisme de la volonté, la croyance en une croissance sûre. Il faut définir ce qu'est une croissance sûre, mais moi je crois qu'il faut avoir confiance dans le progrès, bien évidemment un progrès durable, dans la science, dans la croissance, dans une croissance sûre. C'est-à-dire, si on dit plus de croissance, ce que j'entends de temps en temps, c'est simple, il n'y aura plus d'innovation. Et les innovations, elles ne vont pas tout résoudre, mais elles vont nous aider à lutter contre le réchauffement climatique, c'est évident. Et donc, si on arrête nos recherches, si on avait arrêté nos recherches sur... après tout, on pourrait dire aussi, on arrête nos recherches en matière de santé.
Bien sûr,
ça coûte cher,
c'est vrai.
Est-ce que ça aide vraiment la planète d'avoir plus de monde sur la Terre? Donc, c'est pas la peine. Mais oui, mais si on va au bout du raisonnement...
Non, mais c'est vrai ce que vous dites.
Donc, moi, je dis, il faut une croissance sûre. Une croissance sûre, c'est pas une croissance qui jette l'argent par les fenêtres ou qui fait des projets qui portent atteinte à l'environnement. Une croissance sûre, c'est celle qui permet justement de loger les habitants dans des conditions dignes, puisqu'on a parlé du logement, dans des conditions dignes, mais en même temps en préservant les terres agricoles pour continuer à pouvoir manger les produits de la terre de nos agriculteurs, à condition qu'ils utilisent eux aussi moins de pesticides. Voilà, c'est
très
tout
clair.
Ça en même temps.
François Rebsamen, vous avez transfiguré Dijon, que j'avais connu il y a très longtemps. Et je vous l'ai déjà dit, hein, parce que quand vous nous avez fait le plaisir de nous recevoir à l'hôtel de ville pour les clés de la ville avec le Figaro, vous êtes un maire, un vrai maire bâtisseur au sens de la noblesse de l'architecture, du geste que vous y mettez, de la passion que vous y mettez. On peut dire aujourd'hui que l'on fustige parfois les maires un peu trop facilement, quand on dit qu'ils ne signent pas les permis de construire, qu'ils freinent au logement, quand on voit la façon, parfois... Alors, pardonnez-moi, je fais un peu de politique, mais dont ils sont traités par un pouvoir central qui a tendance peut-être à se jacobiniser un peu.
Oui, le pouvoir central, je peux en parler, puis je reviens au fond de votre interrogation, bien évidemment. Ce pouvoir central, il fonctionne de manière verticale. Et les outils sont là pour fonctionner de manière verticale. Une constitution, un homme, une femme, en l'occurrence c'est un homme aujourd'hui, mais demain ça peut être une femme, quelqu'un qui a tous les pouvoirs et qui ne considère pas les corps intermédiaires, les organisations syndicales, la presse, les collectivités locales, comme les interlocuteurs nécessaires à un pouvoir central très fort. Et donc, parce que pour le président de la République, que je connais bien, j'ai voté pour lui, donc je peux le dire, les collectivités locales, c'est un impensé. Il faut lui rappeler tout le temps qu'on existe, parce qu'il ne les connaît pas, finalement. Et il adore Marseille, il a comme ça... Il est tombé amoureux de cette ville, c'est une ville magnifique avec ses difficultés.
Absolument.
C'est vrai. Mais en même temps, si vous ne lui rappelez pas tout le temps que ce sont les collectivités locales qui font, je le dis pour le gouvernement aussi, ils nous annoncent des choses où je l'ai raconté, je vous raconte cette anecdote à Bruno Le Maire. Il disait, on l'avait réuni en tant que président de la commission des finances de France Urbaine, et il disait, mais maintenant il faut changer, il faut qu'on arrête les annonces à tout va qui ne servent à rien. Je lui dis, j'en ai deux magnifiques. Annoncer qu'on va mettre 2 milliards d'euros pour apprendre aux gens à faire du vélo. Je lui dis, non mais franchement, vous croyez qu'on fait quoi dans nos villes? Ça fait longtemps que dans les écoles, on a acheté des vélos pour les enfants défavorisés ou dans les familles où il n'y a pas de vélo. On ne l'a pas attendu. C'est comme vouloir donner un petit déjeuner du niveau national aux enfants dans les écoles. Le petit déjeuner, ça fait longtemps qu'on le donne et on n'en veut pas qu'ils en prennent deux parce qu'il y aura du surpoids, etc., etc. Donc qu'ils arrêtent et puis qu'ils s'occupent de ce dont ils ont à s'occuper, c'est la sécurité, c'est les affaires étrangères. Voilà. Et nous, la vie, tous les jours, c'est nous. Et on a une responsabilité de loger les gens.
Absolument.
Et ça, moi, je la porte vraiment.
Hein. De les loger et de les rendre en proximité avec l'emploi.
Bien sûr.
Tout à l'heure, Jean-Philippe Girard disait que... Et c'est vraiment exemplaire ce que vous avez fait. Je vous le dis, et je le dis avec toute la liberté qu'on me connaît. Vous le savez, les amis. Mais vous avez démontré que c'est possible. Pourquoi,
oui,
François Rebsamen, il y a un tel attentisme et une telle morosité? Comment vous l'expliquez? Vous les connaissez, vos collègues de maire? Vous les rencontrez? Ils sont désespérés.
Ils sont... certains sont désespérés.
Mais il y en a même qui jettent l'éponge.
D'autres agissent. Oui, il y en a qui jettent l'éponge. Mais ils jettent l'éponge parce qu'ils ont des injonctions, vous le disiez, contradictoires, à savoir, ils voudraient bien construire, mais quand on construit, on dérange quand même un peu. Puisque personne ne se bat pour réhabiliter l'acte de construire, moi je dis ça, construire, c'est beau. C'est pas construire pour construire, c'est construire pour loger des gens, c'est quand même majeur. Et bien les loger, j'ajoute tout de suite le bien loger.
Tout en ayant le souci de l'environnement, hein, parce qu'il faut le rappeler, ça aussi.
Je redis cette tour.
Absolument.
Vous voyez, par exemple, à Dijon, aujourd'hui, on a 600 hectares de vignes qui étaient promis à l'urbanisation. On produit notre vin. Tout ça parce qu'on a construit de manière raisonnable en densifiant. J'appelle ça la densification heureuse. Ça fait hurler mes opposants, mais ça ne me dérange absolument pas. Parce qu'il faut trouver une densification acceptable par tous. Alors, ça demande beaucoup de pédagogie.
Bien sûr.
C'est vrai que certains jettent un peu le manche après la cognée.
Ouais, c'est très clair. Nous avions fait une étude à Radio Imo avec nos confrères de Sud Radio, où j'anime une matinale tous les samedis. Vous faites partie des 5 premiers territoires français les plus attractifs pour ceux qui veulent s'installer, avoir la douceur de vivre, bien boire aussi, puisque c'est quand même plus sympathique. Mais surtout, ce qui est frappant, c'est que vous vous distinguez dans ce territoire par l'innovation, la créativité. Vous avez une entreprise qui s'appelle Elitis, qui existe depuis 20 ans, qui est aujourd'hui leader et pionnière, et elle souhaite rester à Dijon. Ça doit être réjouissant, voire jubilatoire pour le maire que vous êtes. C'est la récompense de toutes ces années d'efforts, non ?
Oui, bien sûr. Elitis, je l'encourage, je vais voir mes collègues maires pour leur dire, ça s'est fait avec le maire de Strasbourg à l'époque, je lui ai dit, Roland Ries,
oui.
tu dois absolument faire ce qu'il te propose, si tu as la volonté, il avait la volonté de le faire, elle s'est faite, elle marche du tonnerre et tout. Maintenant ça va être à Brest.
Mulhouse, Le Havre.
Le Havre, j'ai cité Le Havre d'ailleurs
absolument.
Tout à l'heure.
Il y a Bordeaux aussi, Montévrain,
oui,
Aubervilliers.
Mais ça va venir, il va avoir la possibilité. Le groupe
s'entoure, hein,
c'est
l'objectif.
C'est formidable.
Est-ce qu'on peut conjuguer la hauteur? Est-ce que vous êtes... Je vous avais déjà posé la question, pardonnez-moi, je vous la repose, est-ce que vous êtes en faveur de la verticalité ?
Ben, je suis en faveur de la verticalité parce qu'elle nous permet d'éviter de nous étaler. Voilà. Et donc, la ville, elle ne sera pas la ville des buildings. Dijon, ça ne sera jamais la ville des buildings. On a, quand on construit une tour, on sait ce que ça représente comme économie de surface, mais en même temps, à côté, on va faire 180 maisons individuelles, mais où on va utiliser intelligemment l'espace. Quand je suis arrivé comme maire, j'ai dit qu'il n'y aura plus de jardin de plus de 1000 mètres carrés. On m'a dit, mais il est fou, pourquoi il dit ça ? Je dis, parce que les personnes âgées, elles vieillissent. Bien sûr, les gens, ils vieillissent au fil du temps. Et puis, ils veulent plus, ils n'ont plus la force d'entretenir leur jardin. Alors, ils essaient de couper les parcelles. Donc, on leur a donné la possibilité de couper les parcelles et de construire sur ces parcelles.
Très bien.
Utiliser le terrain. Il faut dire que j'ai été aidé par les ingénieurs, etc. Mais il faut aussi avoir une belle équipe.
Vous avez fait la preuve, je le redisais tout à l'heure, qu'un maire qui construit n'est pas un maire battu. Vous avez défié, d'ailleurs, vous avez défié, moi, je vous le dis. Tous les pronostics. Dernière question que je voulais vous poser. On le voit, cette tour, on avait fait un article, c'est comme ça que j'ai rencontré Thierry Biel, j'avais fait un article dans le Figaro, qui titrait « Un habitat qui rend du pouvoir d'achat aux Français ». Et on l'avait analysé, parce que vous savez, au-delà de l'incantation marketing, on l'a vérifié. 1600 euros en moyenne d'économie financière.
C'est ça.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous, le maire que vous êtes, vous vous dites, c'est possible.
Mais voilà, je vous dis, c'est possible. Je porte un projet européen d'autoconsommation collective. Aujourd'hui, on est 30 villes pilotes et on est leader des 30 villes pilotes. Derrière nous, il y a des villes comme Bruxelles, etc. Et donc, on porte ce projet d'autoconsommation collective. Ça veut dire, pour que l'écologie soit acceptée, elle doit rendre du pouvoir d'achat, elle doit donner du pouvoir d'achat. Les classes populaires, vous pouvez leur dire ce que vous voulez, ils ont des difficultés à vivre, ils ont souvent des problèmes de pouvoir d'achat. Et donc si, grâce à l'écologie, vous pouvez leur montrer qu'ils vont vivre bien, mieux, plus calme, avec moins de dépenses, ils vont adopter l'écologie. Et donc ça sera l'écologie populaire. Et moi je plaide l'écologie populaire, celle qui rend du pouvoir d'achat et qui rend les gens heureux.
Et d'ailleurs vous mettez en relief toutes ces idées à la Fédération progressiste que vous avez créée. Un courant politique qu'on va suivre d'ailleurs avec beaucoup de vigilance et j'encourage tous ceux qui nous écoutent effectivement à regarder de très près. Vous avez d'ailleurs entraîné des maires dans votre sillage et si je peux me permettre de le dire, Patrice Vergriete, nouveau ministre du logement, maire de Dunkerque, fait partie de votre famille politique.
Olivier Klein avant,
absolument.
Joachim Pueyo qui est un élu du centre de la France dans l'Orne. Il y a des maires, il y a des élus. On porte un peu tous la même idée, c'est-à-dire il faut avoir aujourd'hui ce que j'appelle une gauche responsable. Elle n'existe pas, elle est à trouver. Et modestement, nous on dit qu'il faut travailler. Et donc il faut faire des propositions, il faut travailler. J'en ai fait une aujourd'hui dans Le Monde sur ce que j'appelle les ninis, ni expulsables, ni régularisables. Il faut penser à l'humanité, il faut avoir le cœur grand quand on veut faire des grandes choses.
Voilà, beaucoup de plaisir toujours à vous recevoir. C'est la quatrième fois que je vous reçois en interview. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Merci François Rebsamen. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Je rappelle que vous êtes le maire emblématique de Dijon. Dijon d'ailleurs, on a prévu de revenir nous faire remettre les clés de la ville. C'était la symbolique autour de cette réception qui a été une très très belle émission. Vous l'avez plébiscité et vous nous avez demandé de revenir. Donc si vous voulez bien, François Rebsamen, on va vous demander de nous recevoir à nouveau pour reparler de votre belle ville et venir à Dijon. Vraiment, ça vaut la peine. Merci François.
C'est moi qui vous remercie et l'année prochaine, nous avons l'Organisation internationale du vin qui fêtera ses 100 ans à Dijon, le Congrès mondial du vin, de la vigne et du vin, ça sera à Dijon. 50 pays vont venir ici faire la fête et le travail scientifique autour du raisin.
Autour du raisin, je serai le premier d'ailleurs, et comme vous le savez, je suis un grand consommateur. Voilà, on n'en dira pas plus. Merci à toutes et à tous et on continue ici à la Tour Elitis dans cet ouvrage emblématique. À tout de suite.